crois que j'en ai déjà un peu parlé, mais donc, peut-être à peine que je le redise. Du point de vue des événements, l'événement, c'est Yom Kippour. On voit toujours Yom Kippour comme l'aboutissement des Aseret Yemei Tshuva, qui commence par les 2 jours de Rosh Hashanah et qui culmine effectivement à Yom Kippour. Donc, Yom Kippour apparaît comme quelque chose qui vient après Rosh Hashanah. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment comme ça. À Rosh Hashanah, on ne sait pas, a priori, dans le texte, on ne sait pas du tout à quoi ça fait référence. Tandis que Yom Kippour, on sait très bien à quoi ça fait référence. Yom Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a permis à Moshe Rabbeinu de ramener les louchot, les deuxièmes louchot, ça veut dire qu'Hachem avait pardonné la faute du veau d'or, et que nous a redonné les tables. Bon, c'est un super événement, c'est un jour de pardon. Et donc, puisque c'est un jour où Hachem m'a pardonné, c'est devenu un jour de pardon pour toute l'année, quoi, pour toutes les années, pas seulement par rapport à l'événement tragique, terrible qui est le veau d'or. Il y a maintenant toutes les années à ce jour-là, c'est un jour comme c'est un jour de pardon, même que, comme on dit, le Nissan Nigalou, alors on sera de nouveau aussi sauvé en Nissan. Mais là aussi, il y a eu un pardon gigantesque à Yom Kippour. Il y a un pardon tous les jours de Yom Kippour. Il y a même, comme on sait, une chita qui pense que Yom Kippour, c'est Itsumo Shel Yom qui est mefaper. C'est le jour qui est mechaper, même si on ne fait rien. Même si on ne fait rien du tout, le fait de passer ce jour-là, ça apporte la kapara. Bon, je vous rassure tout de suite, comme toujours, la halakha, ce n'est pas ça. Dans la halakha, on doit faire quelque chose. Mais bon, dans l'idée, c'est très important de le savoir. Voilà, quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qui ça? Connecting. Ah,
Cannes, je l'ai fait entrer Cannes.
oui. Donc, voilà. Donc, alors ça, c'est Kippour. Et alors, comme on sait, Akadosh Baruch Hu a pardonné au Bnei Israël. Le 40e jour, Moshe Rabbeinu était monté au Sinaï pour recevoir la Torah, l'étudier une deuxième fois pour les deuxièmes louchot. Et il est monté pour intercéder, pour qu'Hachem pardonne au Bnei Israël la faute du veau d'or. Et Hachem n'était pas d'accord de pardonner. Donc, durant toutes ces 40 jours, quasiment, c'était une négociation qui n'aboutissait pas. Et le 40e jour, Hachem a cédé finalement et il a accepté de pardonner. OK. Alors maintenant, il y a une tradition qui dit que 10 jours avant ce fameux 40e jour, 10 jours avant, il y a eu une porte qui s'est un peu entrouverte concernant le pardon. Et c'est ça, 10 jours avant Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah. Donc c'est à l'envers, ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est le moment où ça a commencé à s'ouvrir. Et ça prend tout son sens quand ça s'est vraiment ouvert. Le pardon a vraiment été accordé, et donc ça c'est Kippour. Donc 10 jours avant, il y a ce jour de Rosh Hashanah. Alors, en fait, dans la Torah, ce dont on nous parle d'un certain Yom HaZikaron, un jour de souvenir. Alors, on sait que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire du jour de la création de l'homme. Alors, on en a déjà parlé. Le problème, c'est que on dit Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été conçu. Alors, c'est complètement faux. Le monde n'a pas été conçu ce jour de Rosh Hashanah. C'est même pas le jour de la création du monde. La création du monde, disons, si on pouvait parler d'un calendrier qui commencerait avant la création de l'homme, avant Rosh Hashanah, si vous voulez. Donc, ce serait le 25 Elul, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est la création, c'est pas. Pourquoi on dit Harat Olam? Erayon, c'est la conception, c'est pas la naissance. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette phrase ou ce texte qui parle de Hayom Harat Olam? C'est sur Yom Kippour, sur Rosh Hashanah, il est dit que c'est un Yom de Zikaron. C'est un jour de souvenir. Alors, c'est le souvenir de quoi? Alors, on peut dire, bon, c'est le souvenir de la création de l'homme. Et du coup, c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Ça veut dire qu'on parle ici d'une année qui commence en automne, c'est-à-dire qui commence par la période obscure de l'hiver et qui va vers la lumière. Donc, ça c'est assez agréable comme idée. On sort de l'obscurité et on va vers la lumière. Pour l'instant, on dit rien du comment on sort de l'obscurité pour aller vers la lumière. Ça, on n'en parle pas pour l'instant. On verra après. Donc, comme vous savez, effectivement, le compte des mois, etc., tout ça, ça se fait à partir de Rosh Hashanah, à partir du mois de Tishri, qui est le premier mois. Dans le décompte en question. Et puis, les Bnei Israël, ils ont reçu un autre calendrier. Un calendrier qui fonctionne à l'envers. Un calendrier dans lequel on passe d'abord de la lumière et on va vers l'obscurité. Et ça, c'est assez étrange, c'est pas très sympa, quoi, si vous voulez. Donc, a priori, ce calendrier où on nous dit que le mois de Nissan, c'est le premier des mois, mais si c'est le premier des mois, ça veut dire qu'on va vraiment, c'est au printemps. Et effectivement, le fait que le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel il y a Pessah, et de Pessah, il est dit que ça doit être dans le mois qui s'appelle Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Et c'est parce qu'on a cette exigence que Nissan soit le mois de Pessah, soit au printemps, que notre calendrier est un calendrier lunaire corrigé solaire. Sinon, a priori, on aurait un calendrier lunaire. Parce que les Israël, ils comptent, comme dit Chazal, ils comptent d'après la lune. Donc, on aurait eu un calendrier lunaire. Et le mois de Pessah, le mois de Nissan, si vous voulez, pourrait se balader dans toutes les saisons. Comme c'est le cas chez les musulmans pour le Ramadan. Mais comme on doit avoir ces Pessah et le mois de Nissan, donc au printemps, on est obligé de corriger et tous les 3 mois à peu près, comme par mois on prend un retard de 11 jours, en 3 mois on a à peu près un mois de retard, en 3 ans on a à peu près un mois de retard, donc à peu près tous les 3 ans, cette fois en 9 ans, on ajoute un mois. Comme ça, on se retrouve avec le mois de Nissan qui est au printemps. Ces deux calendriers, dans le sens, d'aller l'une fois vers la lumière et l'autre une fois vers l'obscurité. En fait, c'est quelque chose qui se retrouve dans la façon dont nous comptons les jours. Nous, effectivement, on compte les jours. Un jour, pour nous, c'est une partie, premièrement une partie nocturne et après une partie diurne. C'est-à-dire le Shabbat commence le vendredi soir. Donc, ça va vers la lumière. Chaque journée va vers la lumière. Mais on sait qu'au Beth Amikdash, un jour se composait d'une partie diurne d'abord et nocturne après. Comme on le sait pour les korbanot, etc. Donc on voit que le clan Israël, il vit sur un double calendrier. Le calendrier qui commence en Tishri, c'est le calendrier qui se réfère à la création de l'homme, disons. Le calendrier qui commence en Nissan, c'est le calendrier qui se réfère à la création du clan Israël. Le clan Israël est né au printemps, et donc il a son compte à lui, un compte différent, qui n'abolit pas l'autre compte d'ailleurs. Parce que les mois sont toujours appelés en fonction de leur position par rapport à Tishri. Chodesh Rishon, Sheni, etc. Par rapport à Tishri. Donc, pas spécialement par rapport au calendrier spécialement juif, en fait. Cette fête, ce jour de Rosh Hashanah, c'est donc le début d'une année. C'est pour ça qu'on se souhaite effectivement une Shana Tova, une bonne année. Et évidemment, il y a un grand problème, si vous voulez, c'est que ces fameux 10 jours qu'il y a entre Kippour et Rosh Hashanah, qui sont devenus, qu'on a l'habitude de voir, nous, de Rosh Hashanah, dans l'ordre de Rosh Hashanah vers Kippour, qui sont appelés Aseret Yemei Tshuva. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est un temps de préparation à Kippour, pour préparation à ce que Hachem nous pardonne. C'est comme ça que ça s'est passé, 10 jours de préparation. Alors, on fait ce qu'il faut et la mitzvah qui nous concerne à ce moment-là, c'est la mitzvah de Tshuva. Dans la mitzvah de Tshuva, il y a toujours les regrets pour la faute qui a été commise, le fait qu'on voudrait vraiment, dans le présent, on voudrait effectivement ne jamais l'avoir commise, la faute, et puis on va prendre dans le présent des résolutions pour ne plus retomber dans ces ornières-là. Et le maasé de la mitzvah de Tshuva, c'est le vidouï. C'est-à-dire que pour prendre la distance par rapport aux fautes, il faut les exprimer. Il faut les mettre à l'extérieur, alors on peut prendre la distance. Tant qu'elle est en nous-mêmes, c'est difficile de prendre une véritable distance par rapport aux fautes. Et bon, alors, il y a tous les jours, dans ces fameux jours de la Aseret Yemei Tshuva, il y a des slichot, c'est-à-dire en fait, il y a des poèmes qui sont lus, etc. Et puis, on applique aussi un conseil que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu. En fait, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné les deuxièmes luchot, il n'y a pas que ça qu'il a donné. Il a donné aussi une procédure à appliquer quand l'Israël aura fauté. Il m'a dit à Moshe Rabbeinu, quand l'Israël faute, Voilà la procédure. La procédure, c'est on désigne quelqu'un qui va être comme un Shliar Tzibour et qui va réciter les Shlosh Esrei Midot de Rachamim. Il va réciter les Shlosh Esrei Midot et donc, et moi, dit Hachem, et moi je pardonnerai. C'est très étrange. Que ça veut dire on va faire un moulin à prière, quoi, un moulin à, on va réciter les Shlosh Esrei Midot et puis Hachem pardonne. C'est un peu comme ça quand même. Et d'ailleurs, la tfila spécifique de Yom Kippour, à part le fait qu'à Yom Kippour, il y a les korbanot, enfin, il y a un moussaf, etc. Mais le reste du temps, on passe son temps à réciter les Shlosh Esrei Midot. Et comme c'est, on n'est pas des orientaux qui sont capables de répéter les Shlosh Esrei Midot pendant toutes les heures, on intercale entre les différentes occasions où on récite les Shlosh Esrei Midot, on intercale des poèmes, des piyutim. Chaque groupe humain dans le cas Israël a ses piyutim. Il y en a qui sont communs, d'autres. On a eu des païtanim, des gens qui ont composé des piyutim à peu près dans toutes les régions du monde où se sont trouvés des juifs. Et donc, certains de ces piyutim ont été intégrés dans ce qu'on appelle les séfot. Et donc, la journée en question, la passe à réciter les Shlosh Esrei Midot, comme Hachem a dit qu'il fallait le faire. Ce qu'on fait. Et il y a une grande difficulté, a priori, c'est que il y a 10 jours de ces jours de pénitence, mais le problème, c'est que les 2 premiers jours de ces Aseret Yemetshuva, qui sont les jours de Rosh Hashanah, eh bien, dans ces jours de Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de putim, il n'y a pas de demande, etc. On ne parle pas tellement de la tchouva, ou même pas du tout. Certains s'interdisent même de prononcer le mot chet. Il y a des minhagim dans lesquels le premier verset de Avinu Malkeinu, Chatanu Lefanecha, ils ne le disent pas à Rosh Hashanah. Parce qu'on ne dit pas le chet, on ne mentionne pas le chet. Alors dans ce cas-là, pourquoi ces 2 jours appartiennent-ils au Aseret Yemei Teshuva? C'est quoi exactement? Bon, 2 jours pendant lesquels, c'est Rosh Hashanah, c'est 2 jours de préparation, même les premiers jours de préparation, on ne fait pas de. Il n'y a pas tout ce qu'il y a dans les autres jours. Alors le pshat, évidemment, c'est qu'à Rosh Hashanah, on est occupé à autre chose. À Rosh Hashanah, le leitmotiv de Rosh Hashanah, ce n'est pas du tout la tshuva. Le leitmotiv de Rosh Hashanah, c'est la malchoute. Le leitmotiv de Rosh Hashanah, c'est la proclamation de la royauté divine. Je vous dis, Ovnei Israël, Imrou le Fanaï, dites devant moi des versets concernant ma royauté, que des Shetamlichuni Alechem, de telle sorte que vous me couronniez en quelque sorte, roi, sur vous. Donc, ce qui est à faire ces 2 premiers jours, c'est de s'occuper de publier que c'est les jours du couronnement d'Hachem. Le couronnement d'Hachem, d'abord, c'est une fête. Le couronnement, c'est extraordinaire. le jour du couronnement, un jour de fête. En vérité, la Gemara, elle demande, elle dit, mais si c'est un jour de fête extraordinaire comme ça, pourquoi on ne dit pas le Hallel? La Gemara, elle dit, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas le cœur à dire le Hallel, dans la mesure où le Sifrei Metim et le Sifrei Chaim sont ouverts. Ce jour-là, on n'a pas tellement, on n'arrive pas vraiment à dire le Hallel. Donc on ne l'a pas dit, mais en fait, on devrait le dire. C'est le couronnement d'Hachem. Le couronnement d'Hachem, de notre point de vue, c'est que nous l'acceptons comme roi. Pas Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'imposer comme roi. Parce que s'il s'imposait comme roi, il ne serait pas Melech, mais Moshel. La différence entre Melech et Moshel, on la connaît. Donc, le Melech, c'est un roi qui est accepté par ses sujets. Le Moshel, c'est un tyran. Il ne demande pas leur avis au sujet. Donc, Kadosh Baruch Hu veut être Melech, il ne veut pas être Moshe. Il est Moshe. Il a Shem Amlocha ou Moshe Bagoïm. Les Goïms qui ne le reconnaissent pas, pour eux, il est Moshe Lotam. Aléem, pardon. Mais pour les Bnei Israël, il veut Malchut. Donc, ça veut dire qu'il nous demande Shetam Lichuni Alechem. Couronnez-moi pour vous. Prenez-moi comme roi. Et du coup, la question qui va se poser, c'est quoi prendre Hachem comme roi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une étiquette. Hachem est mon roi. Non. Avoir un roi. Avoir un roi, ça veut dire qu'on se considère comme les sujets de ce roi et qu'on a des comptes à lui rendre, à ce roi. Donc, on a des comptes à rendre à Hachem. Seulement, c'est un roi particulier parce que un roi de chair et de sang, ben, il sait ce que je fais, disons. Un système au point d'espionnage, il sait ce que je fais. Mais le problème avec Hachem, c'est que non seulement il sait ce que je fais, mais il sait aussi ce que je dis et il sait ce que je pense. Et donc, je donne des comptes sur les trois. J'accepte de donner des comptes sur les trois. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça, je propose de dire que chacun a dans la vie, il a des gens dont l'opinion qu'ils ont de lui compte pour lui. Ça peut être à des moments différents de la vie des personnes et d'autres, mais ça peut être les parents, ça peut être les professeurs, ça peut être certains amis. Les maîtres. Donc la question qu'on peut se poser, c'est voilà, je fais telle et telle chose, est-ce que je suis prêt à assumer ce que je suis en train de faire devant justement éventuellement mon conjoint ou mes enfants ou mes maîtres? Est-ce que je suis prêt, effectivement, à assumer ce que je dis, à assumer ce que je pense devant, justement, ces personnes-là, cette personne-là, éventuellement? c'est pas du tout qu'il s'agit de ça. C'est juste que avoir une espèce d'approximation pour essayer de comprendre et de aller dans le sens de être prêt à rendre des comptes, c'est-à-dire accepter de vivre sous le regard d'Hachem, si on peut parler comme ça. Ben, il nous faut des choses concrètes. Et on dit sous le regard d'Hachem, ça peut être, ça deviendra, ça peut devenir complètement abstrait, c'est pas vrai. Par contre, on se dit, voilà, pour moi, ce qui est très important, c'est pas que mes enfants aient une bonne image de moi. Évidemment, je ne voudrais pas qu'ils me voient faire telle et telle chose, ou dire, ou penser telle et telle chose. Et bien, si tu ne veux pas, voilà, ben imagine que, voilà, maintenant Hachem, il sait, donc est-ce que tu es prêt à assumer ça devant Hachem? Donc, c'est une façon simplement d'aller dans le sens d'assumer les choses devant Hachem, c'est-à-dire l'accepter comme roi. Ce jour du couronnement d'Hachem, de la proclamation de la royauté divine, avec toutes sortes de piyutim qui parlent de la Melech, etc. Le leitmotiv, le mot qui revient le plus dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est Melech. Beaucoup de piyutim sont construits sur Melech, etc., sur la Malchut. Alors, comme c'est le jour du couronnement, alors il y a une manifestation publique qui est prévue. La manifestation publique, c'est la sonnerie du shofar. Pourquoi dit, vous allez sonner du shofar. Ce jour-là, c'est un jour où on va sonner du shofar. Et donc, la sonnerie du shofar, c'est les sonneries c'est l'orchestre, donc c'est un moment de grande joie. C'est bien connu qu'il y a beaucoup de gens qui sont super émus et des gens qui pleurent. On dit de Gandavina qu'il était extrêmement joyeux pendant les tkiyot, parce que lui, il voyait qu'on proclame la royauté de la chaîne. En fait, si les gens pleurent parce qu'ils ils pensent à leur avérot, etc., ce n'est pas évident du tout que c'est permis à Rosh Hashanah. A priori, ce n'est pas un jour de... Si les Chazal avaient voulu qu'on pense à nos fautes, etc., à Rosh Hashanah, mais ils nous auraient mis un vidouille. Il n'y en a pas. A priori, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle toujours de Tkiyot Shofar, Tkiyat Shofar, la Tkiya, c'est la sonnerie, c'est la longue sonnerie, c'est le tut, longue sonnerie. Mais ce n'est pas ça la mitzvah. Rosh Hashanah n'est pas un Yom Tkiya. C'est un Yom Teruah. La sonnerie qui est la sonnerie de Rosh Hashanah qu'Hachem nous a ordonné de sonner ce jour-là, c'est la mitzvah Tayom. La mitzvah du jour, c'est la Teruah. Seulement, Chazal, on dit qu'avant... Il faut l'emballer en quelque sorte la Teruah avec une kia devant et une kia derrière. C'est quoi la Teruah? Là, on entre dans le un peu paradoxe d'une certaine manière. Il n'y a pas de. si on cherche dans la Torah une autre occurrence du mot toi pour essayer de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, teruah. Il y a toutes sortes de pseudo-étymologies, mais quand Chazal se demande qu'est-ce que c'est quoi, ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas dans la Torah. Par contre, il y aura dans le Nach. Mais dans le Nach, la source qu'on va trouver, elle est très, très étonnante. Alors, dans la source en question, vous la connaissez probablement, vous connaissez l'histoire. À un moment donné, dans le clan Israël, on a eu affaire à une espèce de géant, de type extrêmement fort, général probablement, quelque chose comme ça, qui gagnait toutes ces guerres. Donc, voilà. Et ce général-là, il avait une mère. Sa mère, elle avait l'habitude de voir son général de fils, son fils de général, général de fils, revenir toujours vainqueur, etc. Donc, elle était là, quand elle sait qu'il y avait une guerre, elle est là à l'attendre qu'il revienne. Et puis, une fois, elle attend et il ne revient pas. Elle commence à s'inquiéter. Il ne revient pas. Il ne revient pas parce que il ne reviendra jamais. Il ne revient pas parce que à un moment donné, il était en fuite ou quelque chose comme ça. Et il est arrivé à la tente d'une femme. Il a dit qu'il voulait qu'elle lui donne à boire. Elle lui a donné à boire, on trouve du lait fermenté, etc. Et bon, ensuite, il l'a violée plusieurs fois et épuisé, il s'est quasiment endormi. Et la femme en question, elle a pris un ticket de la tente et puis elle lui a enfoncé dans la tente. Elle a tué le bonhomme. Tué le bonhomme, elle a sauvé le clan Israël. C'était même pas une femme juive, a priori. Elle fait partie du peuple de Yitro, le Kénin. Elle a tué ce bonhomme. Elle a sauvé le clan Israël, de cette manière. Tout le monde connaît son nom, il est très répandu, il s'appelle Yael. Et on dit d'elle qu'elle était plus grande même que Nashim Shebaoel, c'est-à-dire plus grande que les matriarches. Il y a à son sujet toute une histoire de savoir que elle est la personne dont on dit qu'elle a fait une avéra lishma. C'est une avéra qu'elle a faite, mais c'est lishma. C'est à la valeur d'une mitzvah. Super. Bon, les Chazal discutent, parce qu'elle a pris du plaisir, pas pris du plaisir, peu importe, voilà. Et donc, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse directement, c'est la raison pour laquelle le fils ne revient pas. Et finalement, la mère, elle se met à pleurer. Et elle pleure, et ses pleurs sont dits avec un lachon qui est le lachon de la Troie. Donc le mot « troua », le sens qu'on lui a trouvé, c'est les sanglots. Et un peu plus que Verlaine, on avait mis des sanglots courts, pas seulement des sanglots longs, des sanglots courts aussi. Mais comme Chazal ne savent pas de façon certaine lesquels sont les bons, alors on fait tout. Et donc on fait les Shvarim et Trois. Il y en a quand même un qui s'appelle Trois, hein, qui est quand même. Il y a Trois, l'autre s'appelle Shvarim. Et donc c'est ça, c'est Shvarim et Trois qui sont les le cœur de... Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre pourquoi dans les... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que les manifestations a priori de joie du couronnement d'Hachem sont les manifestations dans lesquelles le chauffard pleure, quoi. Enfin, quelque part, il sonne des choses qui pleurent. Du coup, on comprend un peu les gens qui pleurent. Ne sais pas, évidemment, enfin, je n'ai pas encore réfléchi cette année. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai pensé les autres années. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien dire de ces sonneries de chauffard qui, a priori, sont la manifestation de la joie qui accompagne le couronnement du roi, et qui ont une étymologie, en tout cas, qu'on est allé chercher du côté des pleurs, des sanglots. Pas terrible. Pourquoi les sanglots de cette femme, la mère d'un rachat d'amour, pourquoi est-ce qu'on le prend lui, on la prend elle? En tout cas, la mitzvah Tayom, c'est la sonnerie du chauffard. Donc, mais cette année, comme ça tombe pas Shabbat, on aura des sonneries pendant 2 jours. Donc, ce que je... Oui, ce que je voulais dire, c'est surtout ça, c'est que Rosh Hashanah n'est pas seulement la préparation du Yom Kippour, mais quelque part, c'est aussi autre chose. C'est pas plus exactement, c'est pas que Yom Kippour est le point culminant de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vrai, ça commence. Les choses ont commencé à Rosh Hashanah, et c'est vraiment une naissance. Il s'agit d'une naissance, la naissance du monde, d'une certaine façon, bien que ce soit la naissance de l'homme. On peut considérer que le monde auquel on s'intéresse, c'est le monde humain, le monde dans lequel il y a des hommes. Il faille faire coexister en fait les deux calendriers, comme si au fond il fallait d'abord regarder les choses de la manière suivante. Au fond, l'important, c'est à Yom Kippour ce qu'on a reçu. On a reçu la Torah, on a reçu, entre autres, la loi. En quelque sorte, la Torah, pas seulement la loi, mais aussi toute la loi. Et quelque part, c'est d'abord la loi, d'accord, c'est Kippour, avant, c'est ça qui fait exister Rosh Hashanah, si on peut parler comme ça. Et si Rosh Hashanah, c'est la naissance de l'homme. Vous voulez, c'est la Torah, elle précède la naissance de l'homme. Ça, c'est classique, n'est-ce pas? La Torah, elle est le modèle de la création du monde. Donc, il y a d'abord la Torah, et après, la création du monde. D'abord, Yom Kippour, on reçoit la Torah, et après seulement, la création de l'homme. Rosh Hashanah. Alors, dans l'ordre où ça se présente pour nous dans notre calendrier, il y a d'abord Rosh Hashanah après Kippour. Mais il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah n'est que le commencement de Kippour, quelque part. Et donc la Torah, elle vient avant l'homme. L'homme est créé selon la Torah. Istakel beoraita ou bara alma. Donc, Baruch Hu, il a, en regardant la Torah, il a créé le monde. Bon, ben, je voulais dire sur tout ça avant de passer au chien de ce soir.